français présenté mes, mon exposé. Je dois m'excuser pour mon français parce que bon, c'est un français un petit peu italien. J'espère que vous serez un petit peu patient. Mais j'aimerais bien parler en français, même si la présentation, comme vous voyez, est en anglais, parce que je ne savais pas, effectivement, s'il y avait des gens qui parlaient, ils ont préféré l'anglais ou le français. Quelques mots pour vous expliquer le cadre, le contexte du projet de recherche et d'où viennent les résultats que je vais vous montrer dans, disons, 5 minutes. Alors, tout d'abord, à la chute du mur de Berlin, les institutions européennes, et pour institutions européennes, je voudrais dire le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, et je vais vous expliquer pourquoi, elles ont commencé à réfléchir d'une manière sérieuse et systématique à comment opérationnaliser le concept d'État de droit. Et le concept d'État de droit était un concept conçu comme la prémisse, la condition nécessaire à la construction de la démocratie. Donc, il faut l'État de droit afin qu'il y ait démocratie. Alors, pour les pays qui désiraient à ce moment-là devenir membre tout d'abord du Conseil de l'Europe, mais aussi ensuite de l'Union européenne, c'était question de savoir comment on peut mettre en place des conditions favorables à l'application des principes, disons, de l'État de droit, et ensuite créer des démocraties, disons, j'ajouterai, selon le modèle européen. C'est pas des démocraties au sens abstrait, ce sont des démocraties qui manifestent une claire connotation européenne. Et on va comprendre pourquoi. Alors là, je me suis intéressée tout d'abord à voir comment, à travers quel type de mécanisme d'influence, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne ont essayé de convaincre les élites politiques et ensuite de, disons, aider les élites politiques, donc c'était la persuasion mais aussi l'aide, à mettre en place des réformes judiciaires qui devaient aller dans la direction de créer l'État de droit. Alors là, c'est naturellement c'est intéressant de voir qu'est-ce que c'est l'État de droit pour les institutions européennes. Et pour analyser ce processus d'opérationnalisation, j'ai décidé de travailler sur les networks judiciaires, c'est-à-dire des networks qui ont été créés tout d'abord par le Conseil de l'Europe et ensuite par l'Union européenne, qui ce sont des networks qui mettent ensemble des juges, des procureurs et parfois des experts de New Public Management. Donc on va voir dans quel, disons, contexte, parce que ça c'est un petit peu spécifique, pour définir qu'est-ce que c'est l'État de droit, et deuxièmement, pour évaluer les réformes judiciaires que les pays post-communistes vont mettre en place pour joindre, disons, les institutions européennes elles-mêmes. Vous voyez, là il y a un moment réflexif, c'est-à-dire que pour donner aux autres une définition de ce qu'il faut faire pour devenir comme nous, il faut savoir quels sont les éléments fondamentaux de l'État de droit pour l'Europe. Ça, c'était le premier pas. Et c'était vraiment la première occasion dans laquelle les institutions européennes ont réfléchi à ce que c'est l'État de droit dans la, disons, vieille Europe. Là, à mon avis, tout ça peut s'adapter aux 90, avec la création de la Commission de Venise, qui était l'acteur le premier à tout d'abord ouvrir des contacts avec les élites du judiciaire, les élites juridiques, les avocats, mais surtout les juristes des pays post-communistes. Et de cette manière-là, on a commencé à travailler ensemble, tout d'abord en évaluant à Strasbourg les réformes judiciaires et l'utilisation de l'instrument de judicial review par les cours constitutionnelles créées dans ce pays-là. Je ne veux pas dire par cela que les cours constitutionnels ont été créés parce que le Conseil d'Europe a demandé à ces pays-là de le faire, parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit le fait que ces pays, disons, sont aussi influencés par des mécanismes domestiques, internes. Donc ce n'était pas seulement la logique des acteurs européens qui poussait, qui les amène à construire des institutions judiciaires. Il y a aussi des raisons internes. J'ai étudié les raisons internes, mais ici, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour nous, pour l'objet du séminaire, de réfléchir à ce qui se passe à Bruxelles et à Strasbourg. Voilà. Alors là, je me déplace parce qu'on a un petit problème avec le contrôle de l'ordinateur. Machine qui est une machine très efficiente dans les mains de la DG élargissement de la Commission européenne. C'est laquelle, à travers, on travaille à travers le mécanisme de monitoring et la membership conditionnalité. On dit, si vous faites ça, vous avez des chances de devenir membre. Ça, c'est plus ou moins, disons, le lien. Je simplifie un petit peu, mais pas vraiment beaucoup. Alors, mais il y a aussi une autre chose qui, à mon avis, c'est important. En 1999, on commence, avec Tampere, à parler des coopérations judiciaires dans l'Union européenne. On n'a pas encore achevé, complété l'élargissement, mais on commence à parler de, disons, la multi-level governance dans le judiciaire, dans l'Union européenne. Et on commence à dire que les États membres, les vieux États membres, doivent se coordonner et, si on pourrait le faire, harmoniser pour construire un espace judiciaire qui soit homogène. Vous voyez, c'est un pas très important au niveau politique, c'est un investissement de, aussi de légitimité très fort. Alors, j'ai dit là, beyond the hierarchical government. Pourquoi? Parce que, bien sûr, l'Union européenne n'a pas le pouvoir de dire aux ministères nationaux, vous devez réformer les tribunaux de cette manière-là. Donc, on commence à dire que c'est, il faudrait mieux utiliser le mécanisme de monitorer et coordonner les politiques judiciaires, pas seulement des pays candidats, mais aussi des pays vieux membres. Donc, vous voyez, le regard qui était au dehors se déplace et arrive à regarder, disons, nous, qu'est-ce qui se passe dans l'espace judiciaire européen. Et en fait, pour, disons, pour avoir des outils pour donner des avis aux pays membres et aux pays candidats, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays, et en particulier au-delà de l'Atlantique. Et on va voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis dans la gestion des tribunaux. Vous savez, aux États-Unis, le système, c'est différent. C'est différent sous plusieurs, disons, aspects, mais surtout, c'est un système dans lequel on a déjà depuis longtemps développé des outils de court management, et donc la traduction de, disons, du judiciaire dans les termes d'un service public qu'on peut gérer comme on gère une administration publique ou bien une entreprise, c'est, disons, dans la perspective d'optimiser la performance, était déjà là. Et donc, on a pris des choses de l'expérience américaine, mais vous savez, l'Europe, c'est l'Europe, non? Toujours. Donc, on n'a pas simplement, copié. Ce n'était pas copier-coller, mais c'était copier et, interpréter. Et on va voir comment on l'a fait. Alors, tout d'abord, on utilise l'instrument de networking. Alors ça, c'est une liste, c'est pas une liste complète, hein. Il y a d'autres, mais je voudrais vous montrer ici les networks qui sont, les plus influents dans la coopération judiciaire, dans le sens où je l'entends ici, c'est-à-dire de la définition des standards de qualité de justice. Alors, vous voyez, alors le CCGE et le CCPE, ce sont deux networks composés par juges et procureurs. Le CCPE est une création très récente parce qu'on a pensé de faire le jumelage. On a fait pour les juges, on a fait la même chose pour les procureurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le contexte du Conseil de l'Europe. Ils se réunissent, ils discutent, et normalement ils discutent à propos de ce qui c'est l'indépendance du judiciaire. Et ici, je vous dis l'indépendance des juges et l'indépendance des procureurs. Hein. Et ils formulent des avis qui sont normalement normalement acceptée par le comité des ministres. Mais surtout, ça c'est la chose intéressante, il socialise, il met en place des mécanismes de socialisation avec les membres, les juges et les procureurs qui sont dedans, qui participent aux meetings, séminaires, conférences. Et ça, c'est intéressant de voir que la membership de CCGE et CCPE a été ouverte ou bien aux juges des vieux membres des États européens, vieux membres de l'Union européenne, mais aussi aux candidats. Donc avant de devenir membre de l'Union européenne, les pays candidats étaient déjà engagés dans ce processus de définition des standards de la qualité de la justice. Bon, la CEPEJ, j'en parlerai ensuite parce que c'est le cas pour moi le plus intéressant. Le LISMA Network, c'est en fait le premier network. Il a été créé en 1995 et c'était créé sur une initiative française avec l'idée de coordonner les écoles de formation judiciaire, mais surtout de promouvoir à l'étranger le modèle de l'École nationale de la magistrature. Et en fait, petite parenthèse, si vous allez voir comment la formation judiciaire est faite dans les pays nouveaux membres, vous voyez bien qu'en 2007, maintenant, on a des écoles de formation judiciaire partout. Et c'est le modèle de l'École nationale de magistrature a été imité vraiment beaucoup. Là, quand on s'est rencontrés, j'avais les données à 2005, mais maintenant j'ai les données à fin 2007. On a aussi le centre pour la formation du judiciaire à Varsovie. Et en Roumanie, on a transformé la structure de l'école du judiciaire et on l'a transformée dans une deuxième, similaire à l'École nationale de magistrature. Donc là, vraiment, c'est très, très efficace. Et puis, le European Network for Judicial Training, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Ça, c'est la Commission européenne qui a décidé de créer une sorte de plateforme, de circuit pour permettre aux juges et aux procureurs qui sont dans les différents pays européens de profiter des programmes de formation dans d'autres pays. Donc ce sont des programmes d'échange de juges et de procureurs. Et ensuite, c'est le network de Judicial Council, ce sont les conseils supérieurs de la magistrature. C'est un network supporté par la Commission européenne, mais ça a été créé avec une initiative spontanée. Voilà. Alors, c'est intéressant de voir que tous ces networks, et puis je viens à la CEPEJ, ont commencé en 2000, ça c'est une année clé, à écrire, à développer des standards de qualité de la justice. Qu'est-ce que c'est un judiciaire légitime? Qu'est-ce que c'est un judiciaire qui est vraiment cohérent avec les principes de l'état de droit? Et si vous regardez tous les documents officiels, vous voyez bien qu'on ne dit jamais que c'est le résultat des choix politiques, comme tous les choix d'ailleurs plus ou moins sont. Mais c'est le résultat d'une analyse technique de ce qu'il faut faire pour garantir de manière objective l'indépendance du judiciaire. Au-delà de ça, la création de la CEPEJ. La CEPEJ a été créée en 2003. C'était le Conseil de l'Europe qui a décidé de mettre en place un mécanisme très puissant pour monitorer, évaluer, suggérer les réformes du judiciaire sur la base de l'idée non pas de la promotion de l'indépendance du judiciaire, mais de la performance du judiciaire. Ça, c'est un volet tout à fait nouveau, mais très, très développé, parce que je viens de regarder les documents officiels qu'on a postés sur le site web la semaine dernière, et on a fait un travail extraordinaire. Mais là, je vais dans le détail. Donc, dans le CEPEJ, il y a, ça c'est un petit peu spécial, il y a des juges, des représentants des ministères de la justice, mais aussi des experts du New Public. public management, en particulier des gens qui viennent des Pays-Bas et des pays du nord de l'Europe, où les pratiques, les bonnes pratiques de corporate management ont été développées, disons, plus que ce qui s'est passé dans le sud de l'Europe.
Alors, ça, on y vient après. Voilà. Alors là, je voulais vous montrer quelle est la normalisation d'un judiciaire légitime selon la position de ces networks. C'est intéressant parce qu'on pourrait dire que ce sont finalement des networks. Donc, quelle est l'importance d'un network? On peut dire des mots, mais les mots restent, disons, comme ça. Mais en fait, toutes les politiques judiciaires qui sont conçues et développées au niveau formel institutionnel se basent strictement sur les avis des networks. Donc, il y a un lien direct d'influence. Alors là, on voit quel est le concept d'indépendance du judiciaire qui est, comment on a traduit l'indépendance du judiciaire dans l'organisation du judiciaire. Alors, tout d'abord, on dit qu'il faut un conseil supérieur de la magistrature qui est composé par la majorité des juges. Et les juges qui font partie du conseil supérieur de la magistrature doivent être élus par les juges et les procureurs. Ensuite, le Conseil supérieur de la magistrature doit avoir des fonctions à la fois administratives et représentatives, c'est-à-dire il est l'autorité qui représente les intérêts des juges et des procureurs vis-à-vis des autres institutions politiques. Il doit être responsable totalement, c'est le monopole, sur le recrutement, la promotion, l'évaluation disciplinaire, mais aussi l'évaluation de la performance des juges et des procureurs. Autonome du point de vue financier, donc le budget est géré par le conseil, et puis il doit être responsable pour l'organisation des programmes de formation judiciaire dans une école judiciaire indépendante, payé à travers un budget public. Ça, c'est, comment on a traduit, on a opérationnalisé le concept d'indépendance du judiciaire. Alors, il y a, les références sont très claires, il y a des avis, non, des recommendations, mais aussi il y a tous les travaux préliminaires qui ont été faits dans plusieurs meetings et séminaires auxquels les pays candidats ont activement participé, parce que par exemple à Bucarest, on a organisé deux meetings pour préparer des travaux préliminaires à la définition de ce que c'est le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui doit être, non ce que c'est. Alors, ici, bien évidemment, il y a un passage de lettre à doit être qui est tout à fait intéressant. Mais, on vient là-dessus après. Et là, il y a aussi le côté performance. Le côté performance, c'est aussi intéressant parce que on a travaillé à ce niveau-là, à mon avis, d'une manière plus systématique, peut-être plus efficace. Et on a fait, trois choses. Tout d'abord, on a monitoré les bonnes pratiques de court management dans les pays européens. On a fait une base de données. C'est la CPEJ qui fait ça. Puis, on a dit, on a élaboré une checklist, c'est vraiment une checklist de toutes les choses qu'il faut faire pour améliorer la performance des tribunaux et, deuxièmement, pour garantir la performance, donc pour évaluer de manière régulière. Et ensuite, on a, si vous voulez, transformé cette connaissance qui est une connaissance de facto, une connaissance factuelle, on a traduit en standard. On a dit ça, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est un passage que je trouve intéressant parce que on a fait un compendium fonction d'indicateurs pour l'évaluation, mais c'est vraiment de dire, si vous voulez que le judiciaire soit une institution légitime, il faut faire ça. Et ça va dans la, on a deux directions de changement. La première, c'est l'introduction de tout le langage de la performance, de la qualité, donc c'est l'efficacité, mais aussi l'efficience, je voudrais dire, hein, que c'est vraiment la ratio coût-bénéfice. Hein. Et de l'autre côté, c'est la transparence. C'est l'idée que, étant donné que c'est vraiment difficile pour le public de contrôler ce qui se passe dans le tribunal, dans le tribunal, alors c'est à travers l'utilisation de websites, tous les ICT appliqués au tribunal, ça veut dire les front desk, toute l'informatisation de la justice. C'est un instrument pour améliorer cette fois-ci l'accountability. C'est pas l'indépendance, c'est l'accountability. C'est la capacité des usagers, parce que c'est l'idée, c'est que les citoyens sont des usagers, de contrôler les tribunaux à travers ces instruments qui rendent le travail des juges transparent. Alors là, j'ai dit la contamination des expériences aux États-Unis, parce que effectivement, c'est le premier séboire de le premier pays dans lequel on a développé ce type d'instrument. Mais maintenant, il faut dire que, par exemple, aux Pays-Bas, on a fait beaucoup de choses dans cette direction et aussi dans d'autres pays. Il y a aussi dans la CEPEJ un groupe de travail qui est composé par les représentants de chaque pays européen et qui fait qui va expérimenter les bonnes pratiques dans la gestion des tribunaux dans tous les pays européens. Donc on est dans un processus d'expérimentation de, si vous voulez, policy transfer ou best practices transfer. Ah, je pense que c'est beaucoup mieux. Ok. Alors là, c'est à mon avis intéressant de voir, disons, l'interaction entre deux types de processus. D'une part, la normalisation, c'est la traduction des descriptions qui pourraient être, disons, sensibles aux dimensions culturelles, la traduction d'une description des judiciaires dans des termes qui sont les termes de l'organisation, les termes du management. Donc des termes apolitiques, aculturels, objectifs, qui servent pour comparer. Comment comparer des systèmes qui sont essentiellement différents? Parce que pour monitorer, évaluer et dire quelle est la solution la meilleure, il faut comparer sur une base, disons, homogène. Comment homogénéiser des systèmes qui sont structurellement différents? Eh bien, on traduit la description de ce système dans un langage qui est totalement dépourvu de connotations culturelles. Et on dit, on parle de qualité, on parle de time frame, on parle de case flow management, on parle de information system management. Et on a, dans cette, disons, ce processus, c'est un processus cognitif, mais c'est aussi, à mon avis, un processus strictement, de manière intrinsèque, politique. Mais ça, bon, je pose la question. Hein, ça, c'est ma position, c'est vraiment, on peut discuter là-dessus. Mais aussi, vous voyez, au même temps qu'on définit quelles sont les normes, on va aussi les renforcer. C'est-à-dire qu'en disant que ces normes sont les normes à travers lesquelles les pays candidats sont admis dans le club européen, on va renforcer les normes, on va les rendre autoritatives, on va dire il faut les respecter. Et il y a une sorte d'effet, disons, latéral qui est la socialisation des juges et des procureurs. Mais ça, c'est intéressant de savoir, c'est pas chez eux peuvent influencer les positions des conseils supérieurs de la magistrature. Et ça, par exemple, s'est passé, bien sûr, en France, en Italie, on peut dire en Bulgarie, pour citer quelques exemples. J'essaie de disons, synthétiser. Tu me dis l'heure, s'il te plaît.
Il est 6h moins.
Ok. J'ai un petit quart d'heure, 10 minutes.
Exactement.
Oui. Ouais. So, j'aimerais bien avoir disons, la discussion parce que bon, j'ai plein de données, mais peut-être c'est intéressant de voir des feedbacks. Alors là, j'essaie de. Faire une synthèse des problématiques que je vois dans ce processus-là. Parce que c'est un processus qui a été décrit par les institutions européennes comme, je répète, apolitique, technique, très, disons, orienté à la performance et à la qualité. Mais on a totalement oublié disons, des aspects qui, à mon avis, vont revenir aux côtés de l'implémentation de l'application des modèles. Alors, tout d'abord, on a intégré dans le discours le policy discourse sur le judiciaire le concept de quality. C'est quelque chose de nouveau, tout à fait. Et pour quality, on a dit de la qualité. C'est la condition pour la légitimité. On définit la qualité en termes de efficacité et d'efficience. Mais je vous assure, vous pouvez regarder tous les documents officiels, j'ai jamais, jamais rencontré le mot responsiveness. C'est-à-dire, on n'a jamais pris en considération la qualité des opinions des juges par rapport au contexte culturel et social dans lequel l'opinion du juge va être, disons, partagée avec le public. Parce que je ne discute pas que c'est bien d'avoir une justice, disons, qui fait très vite. Ça, c'est disons, un acquis. Mais ce n'est pas suffisant pour dire que le judiciaire est légitime. Ça, c'est... J'essaie de disons... pousser un petit peu la discussion là-dessus, mais je pense vraiment qu'on a oublié quelque chose. Et puis, on a dit, on sait que quand on dit une opinion de juge est juste, on dit tout d'abord qu'elle est basée sur les normes juridiques. Mais là, il y a quelque chose de plus. On dit est juste si elle est basée sur les normes juridiques, mais si elle est aussi basée sur les résultats d'un processus qui respecte des normes, qui sont des normes de standard. Donc on a contaminé la légitimité du droit avec la légitimité du processus de la production des opinions. Ça, c'est, à mon avis, un côté aussi intéressant. Et puis, finalement, ça c'est banal, c'est trivial, mais il ne faut, à mon avis, pas oublier aussi ça. Dès qu'on prend, parce que ça c'est l'idée, non, de prendre les bonnes pratiques et les transférer, les appliquer dans d'autres contextes, c'est pas donné, pas du tout, qu'elles vont marcher de la même manière dans laquelle elles marchaient dans le contexte originel. Ça c'est vraiment une observation triviale, quoi. Mais il faut pas oublier, parce qu'on n'a pas des considérations là-dessus de la part des institutions européennes. C'est vraiment la normalisation, la standardisation, pas réflexive, quoi. On n'a pas critique. Et on y arrivera, je pense. Je veux être optimiste et j'espère qu'on y arrive. Bon. Et ça, c'est exactement ce que je viens de dire. Tout d'abord, on a créé un langage universel au niveau européen, parce qu'au niveau européen, on n'a pas un langage universel pour parler de justice. On n'est pas un État. On n'est pas les États-Unis. Mais même aussi si dans les États-Unis, il y a beaucoup de différences, donc je pense qu'on a aussi dans l'Europe. côté des États-Unis, on peut dire, dans l'Europe, on a des systèmes judiciaires et des systèmes sociaux qui conçoivent la justice d'une manière très différente. Donc, on avait besoin d'une sorte d'artefact, c'est vraiment quelque chose d'artificiel qu'on a créé pour faire des politiques. Autrement, on n'avait pas de terrain sur lequel mettre les pieds. Et donc, c'est vraiment l'effort d'éliminer les différences culturelles. Alors, il y a, je vous dis, parce que ça c'est vraiment de l'actualité, c'est demain à Bruxelles, donc ici, il y aura un forum sur la justice organisé par la DG, c'est la DG Justice and Home Affairs, auquel vont participer tous les networks, tous. C'est extraordinaire. Quoi, hein. On me l'avait dit l'année dernière, on avait déjà dans la tête ça, on m'avait dit ça, mais j'avais pensé que peut-être c'était plutôt, vous voyez, on planifie beaucoup de choses, mais ce n'est pas toujours donné qu'on va les réaliser. Mais ce n'est pas ici, on a réalisé ça, parce qu'ils veulent définir une conception commune de la qualité de la justice. Et ça, c'est à mon avis, c'est un pas très intéressant. On va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça va donner. Et bon. Et alors, là, justement, je vous dis, je vois ici, c'est le titre de mon séminaire, c'était l'idée un peu une provocation, quoi, c'est de dire, on va traduire, c'est vraiment une traduction des faits, des bonnes pratiques ou des modèles qui sont déjà là en Europe et on va les traduire en standard. Mais dans cette traduction, on fait un choix. Parce que pas tous les pays ont, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature. En Allemagne, on n'a pas le Conseil supérieur de la magistrature. En République tchèque, on n'a pas le Conseil supérieur de la magistrature. Aux Pays-Bas, le Conseil supérieur de la magistrature n'est pas le même Conseil supérieur de la magistrature de l'Espagne. Donc, en fait, de dire qu'il faut faire ça, c'est choisir un modèle qui est un modèle culturellement connoté. On sait où c'est ce modèle-là. C'est clair. Alors, je ne veux pas être, disons, enfer, mais on pourrait dire pourquoi on a... Parce qu'en fait, si on va voir qui sont les juges les plus actifs dans ces networks, on comprend bien que sont les juges qui appartiennent au même pays dans lequel viennent les modèles qui ont transformé en standard. Ça, on ne peut pas le dire, disons, aux institutions européennes, dès que je vais faire des entretiens, je ne peux pas dire ça. Mais si, on peut le dire. Et je pense qu'il y a vraiment un lien très, très, très strict. Si on va voir, on va vraiment calculer les présences et les activités des juges, on va voir qu'il y a une forte majorité des juges qui viennent de l'Italie. Je la mets première, parce que c'est vrai, heureusement c'est ça. Et puis il y a la France, c'est la Belgique, c'est l'Espagne. Et puis, il y a les experts des Pays-Bas, pour le côté management. Et ça fait un groupe de personnes qui, on sait les noms, on sait tous, quoi. On sait l'adresse, on sait tout. Donc, c'est intéressant de dire, bien, ce sont des standards techniques, mais ce sont des standards qui viennent d'un modèle qui vont légitimer, donc transformer un modèle que l'histoire de ces pays a créé, c'est une création historique qui vient d'un processus historique, donc on a transformé ce résultat-là, c'est un fait, pas de doute, à quelque chose qui est une norme. Moi, je pense qu'il y a une transformation qui est tout à fait bon. Alors là, je laisse les open questions et pour l'instant, je termine là parce que j'aimerais bien voir des actions. Merci. Et...